un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre.
Si j'en ai perdu la tête, je t'ai aimé et même pire, tu es venu en sifflant.
J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle.
Je voudrais tant, mais je n'oserais pas.
Traversant tous les bruits du monde, avec ma fleur à mes côtés, me nourrissant à chaque seconde de sa douceur et sa beauté.
Encore les mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots. Mais je t'aime.
Bonjour tout le monde, plutôt bonsoir, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour cette émission numéro 16 de cette saison 2 de 50 nuances d'amour. Voilà, alors on va commencer très rapidement à aller dans le vif du sujet, à savoir la relation à l'autre. Je vous rappelle simplement que si vous voulez éventuellement témoigner, partager votre expérience en lien avec la relation amoureuse, nous parler de vous, nous parler d'une personne que vous avez connue et nous décrire des circonstances d'une fameuse relation que vous avez soit vécue, soit à laquelle vous avez assisté et qui a des particularités, vous êtes les bienvenus, c'est le sujet de l'émission. Donc c'est le 06 15 94 36 51. Vous me contactez, soit vous m'appelez directement sur ce numéro, soit vous m'envoyez un SMS. Et puis, dans cette émission ou dans une prochaine, on échangera sur le sujet qui vous convient. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, là, aujourd'hui, on n'a personne pour témoigner. Donc, comme d'habitude, on évolue ensemble sur ce sujet de la relation à l'autre et d'avoir une relation, comment avoir une relation la plus saine possible, la plus authentique possible, dans le respect de soi et dans le respect de l'autre. Et vous avez vu qu'au fur et à mesure des émissions qu'on a déjà écoutées, travaillées, voilà, effectuées ensemble, l'enjeu, c'est toujours d'être, au départ, aller à la rencontre de soi. Aller à la rencontre de soi, c'est-à-dire savoir qui je suis, comment je fonctionne, quelles sont mes limites, qu'est-ce que peut-être je devrais regarder en face, qui me fait un petit peu du mal, que je n'ai pas forcément envie de regarder, de voir, parce que ça me montre des côtés de moi que j'apprécie pas trop et que peut-être dans la société on pointe du doigt. Mais l'enjeu, c'est quand même d'aller les regarder, de travailler dessus pour pouvoir aller à la rencontre d'une personne plus apaisée, plus allégée par rapport à des comportements qui peuvent être en lien et qui peuvent être source de souffrance pour vous ou pour l'autre. Voilà, donc on va avoir plusieurs capsules dans l'émission, plusieurs petites capsules. Et la première, bah écoutez, on va commencer avec quelque chose d'extrêmement positif, quelque chose d'extrêmement inspirant. C'est une capsule qui explique, enfin, voilà, oui, en plusieurs points, vous allez voir, la personne explique qu'est-ce qu'une relation saine. Voilà. Et l'enjeu, c'est effectivement ce que vous allez entendre là. Des fois, c'est intéressant de l'écouter deux fois, voire trois fois. Enfin, des fois, c'est intéressant d'avoir plusieurs relectures d'une même émission ou d'un livre. Hein. Des fois, enfin, voilà, on parle de tout ce qui nous inspire. Mais c'est intéressant d'y retourner plusieurs fois. Parce que quand on l'entend une fois, il y a des choses qu'on entend, il y a des choses... Donc, on focalise notre attention sur une information. Et puis, voilà, d'autres choses passent entre le moment où on est en train de réfléchir à ce qui a été dit et la personne continue à parler. Et c'est intéressant d'y revenir parce qu'une deuxième écoute nous fera entendre des choses qu'on n'avait pas entendues la première fois, et voire une troisième, etc. Et en plus, si vous y revenez dans un an, dans deux ans, peut-être qu'en ayant travaillé sur vous, vous aurez même une approche différente du sujet et ça vous ouvrira l'esprit à des choses que vous ne pouviez pas voir lors de la première écoute d'un sujet qui vous touche ou qui touche une personne que vous connaissez et qui peut vous aider à mieux vous comprendre ou à mieux comprendre l'autre. Voilà, donc l'idée... Je vous redonne le numéro de téléphone 06 15 94 36 51. Osez appeler, osez parler de vous, osez venir nous exposer comment vous fonctionnez et nourrir l'autre, les auditeurs et moi-même de votre personnalité, de votre expérience. Tout ça sans jugement. Voilà. En attendant, je lance la première capsule. Ça s'appelle Une relation saine, c'est quoi au juste? Et on se retrouve après. Alors à vos petits crayons, parce qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être utiles d'être inscrites. Voilà, à tout de suite.
Est-ce que cette situation te parle? Mais enfin, mais tu vois bien que ça marche pas ton truc, là, c'est pas comme ça qu'on fait, réfléchis un peu.
Quoi?
Non mais comment tu me parles? Tu me parles plus jamais comme ça, c'est compris? Non, bah d'accord, je dirai plus rien alors. Et tu veux pas que l'autre dise plus rien, tu veux juste qu'il te parle autrement. Le truc, c'est que si ce qu'il t'a dit mal, il ne sait pas le dire autrement, il n'a pas d'autre alternative que parler mal ou ne rien dire. C'est exactement la même chose quand on veut construire une relation saine. On sait qu'on est dans des relations toxiques, des trucs qui ne marchent pas, et on a envie de sortir de ça, mais on ne sait pas quoi faire à la place. On ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble, en fait, une relation saine. On n'a pas franchement de modèle pour ça. Et quand il y en a, on n'a pas nécessairement analysé ce qui fait que c'est une relation saine. Dans cette vidéo, on va donc voir 13 signes qu'une relation est saine. Mon intention ici n'est pas de te montrer ce que c'est qu'un couple parfait. Un couple parfait, ça n'existe pas. C'est pour te montrer tout simplement à quoi ça ressemble une relation saine pour que tu puisses mettre ton GPS vers ça et avoir des exemples tangibles de ce que tu peux mettre en place pour harmoniser tes relations existantes et surtout, puisque je m'adresse essentiellement aux personnes célibataires et en début de relation, mettre ça en place dès le début d'une relation pour qu'elle démarre sur de bonnes bases et qu'elle puisse continuer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sache que tu trouveras en description de cette vidéo une série d'exercices à recevoir par email pour commencer à poser les bases de cette relation saine, pour préparer ton terrain à une nouvelle rencontre qui sera plus prometteuse que les précédentes. Le premier signe, c'est que vous vous sentez en confiance pour vous exprimer sincèrement. Vous n'avez pas peur de la réaction de l'autre, vous n'avez pas peur de la désapprobation de l'autre. Vous ne cherchez pas à faire plein de détours pour éviter un conflit, ce qui inévitablement en crée. Vous êtes capable d'aller droit au but, même si ça se fait par étapes, parce que des fois on n'a pas toujours les mots, c'est pas toujours clair dans notre tête, et donc on a besoin de faire des petits brouillons pour délivrer son message. Et c'est tout à fait possible de dire à l'autre, c'est pas très clair ce que j'ai envie de dire, donc c'est possible que ce soit mal dit. Je fais donc appel à ton indulgence. De cette manière-là, l'autre, il est prévenu qu'il y a des trucs peut-être pas super qui peuvent sortir, et donc il prépare l'espace en lui pour accueillir des trucs pas top. Il sera pas surpris s'il y a quelque chose qui lui déplaît. Il y a plein de petites choses à faire comme ça pour créer un climat de confiance et de sécurité pour s'exprimer sincèrement, c'est-à-dire pour exprimer ce qui est vrai en soi, tout en respectant la relation et comment l'autre peut réagir à ça. Typiquement, il y a des gens qui sont sincères, qui sont honnêtes et en fait qui vont dire qu'ils sont cash, voilà, et que eux ils disent vraiment ce qu'ils pensent. Donc en fait, on peut tout à fait être honnête et sincère sans manquer de tact. Voilà, on peut tout à fait avoir cette honnêteté, cette sincérité en prenant soin de l'autre qui va recevoir nos paroles. Deuxièmement, vous pouvez ne pas être d'accord sans chercher à avoir raison et sans vous engueuler. Vous êtes curieux du point de vue de l'autre, que vous cherchez réellement à comprendre avec des questions de curiosité. Et vous êtes conscient qu'il existe plusieurs logiques, plusieurs réalités. Chercher à avoir raison, c'est l'un des pires jeux psychologiques qu'on peut jouer en relation. Donc dans une relation saine, on met avoir raison de côté, on préfère être en lien plutôt qu'avoir raison. Ça ne veut pas dire mettre son point de vue de côté, ça ne veut pas dire s'adapter à l'autre. Ça veut dire tout simplement permettre à deux réalités qui sont différentes de coexister sans que ce soit la guerre. Troisièmement, vous ne comptez pas les points, vous n'accumulez pas les conflits non résolus et les non-dits. Chaque friction trouve une résolution, trouve un soulagement et vous savez vous pardonner. Ça prend le temps que ça prend, mais il n'y a pas de rumination qui va exploser à la moindre colère. On ne se couche pas fâché. Et même si une friction prend plusieurs jours à se résoudre, évidemment qu'on va peut-être se coucher pas de super humeur, mais on ne va pas se coucher fâché pour autant parce qu'on va savoir rester connecté dans les conflits, on va en reparler. Numéro 4, vous ne représentez pas la totalité du monde de l'autre. Même si vous êtes heureux ensemble, et peut-être plus heureux ensemble, vous pouvez tout à fait l'être aussi séparément. Et vous continuez de cultiver vos relations affectives en dehors du couple, donc les relations amicales et les relations familiales. Numéro 5, vous respectez les limites de chacun, qu'il s'agisse de limites de temps, de disponibilité émotionnelle, de toucher physique, de sexualité, d'objets, d'espace personnel, de manière à ce que personne ne se sente étouffé, envahi, mais qu'on se sente pleinement à sa place et libre d'être là, d'être comme on est. Le mot-clé pour ça, c'est consentement, et ça s'applique un peu à tout. Numéro 6, ça vous arrive d'être en conflit, ça arrive à tout le monde, mais ça ne se transforme pas en drame chaotique qui menace votre lien. Vous savez prendre le temps de vous écouter, de vous reconnecter. Vous savez aussi faire preuve d'humilité, vous excuser et prendre la responsabilité des comportements qui ont posé problème à l'autre. Et vous avez à cœur de bien vous disputer, parce que se disputer, c'est inévitable dans toute relation, même dans les relations saines. C'est juste qu'il faut apprendre à bien le faire pour que ça nous déconnecte un petit peu, évidemment, mais ça ne menace pas la relation. Ça ne détruit ni la relation, ni évidemment les personnes qui la composent. Évidemment, quand je parle de faire preuve d'humilité et de s'excuser ici, bah, c'est en dehors des rapports de pouvoir, hein. On ne va pas s'excuser parce que quelqu'un le demande si on ne le pense pas. Ça veut dire ici qu'il y a un désaccord quelque part et qu'il faut résoudre ce désaccord et pas exiger les excuses de quelqu'un. Numéro 7, vous vous soutenez dans vos aspirations personnelles, vos rêves, vos projets respectifs. Vous encouragez la croissance personnelle de l'autre tout en gardant à l'esprit qu'il y a une relation entre vous deux dont on cherche à prendre soin au maximum aussi. On est d'accord qu'on a quand même plus envie de rester dans un couple qui encourage ça. Parce que dans ce couple, on se sent libre d'être soi et de vivre sa vie comme on l'entend. Évidemment que ça implique que la vie que chacun a envie de vivre soit compatible avec l'autre. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que dans ces relations saines, on n'est pas sur une compatibilité de surface, on est sur une création presque de compatibilité. On est sur comment on va fonctionner en équipe et comment, parce qu'on s'aime, on va faire coexister nos envies respectives. Numéro 8, vous vous laissez influencer par l'autre. Alors je sais que celle-là, elle peut éveiller la vigilance de certaines tourterelles, mais on se laisse influencer par l'autre dans le bon sens. Cette relation saine, elle va nous bouger, elle va nous changer, et c'est très bien. Mais on ne va pas changer pour faire plaisir à l'autre, on va éventuellement effectuer les changements qu'il demande parce qu'ils ont du sens pour nous. Et ce, même si c'est challengeant, mais on a envie de les faire parce que ça élargit notre palette de couleurs en concordance avec nos valeurs, avec qui on a envie de devenir. Là encore, dans le respect du rythme, des capacités qui peuvent se développer, mais bon, quand même, on ne peut pas passer du tout au tout. Et surtout, évidemment, dans le respect des valeurs de chacun. Numéro 9, vous n'invalidez pas les émotions et les besoins de l'autre. Donc pas de « calme-toi, tu devrais lâcher prise, arrête de t'inquiéter tout le temps, n'aie pas peur ». Pas de « faut pas pleurer pour ça » ou « c'est pas si grave ». De toute façon, à qui ce genre de parole a déjà fait du bien? Hein?
Personne.
Vous êtes capable d'empathie l'un envers l'autre et chacun se sent compris. Cette empathie-là, c'est quelque chose qui s'apprend, notamment dans mon stage de fin août. Et la toute dernière vidéo est précisément sur ce sujet. Numéro 10, vous faites place aux conversations vulnérables, intimes, parfois difficiles, et aux sujets qui vous permettent de vous connaître et donc de vous aimer à un niveau plus profond. Numéro 10, votre relation n'est pas parfaite, mais vous êtes toujours capable de revenir dans l'amour, de toujours vous regarder avec les yeux de l'amour, même quand il y a des défauts qui s'expriment. Vous savez et vous acceptez que oui, il y a des jours avec, oui, il y a des jours sans, des périodes même. Le couple a ses saisons. Parfois, le couple est dans son printemps, dans son été, ou voilà, quand l'énergie redescend entre vous, bah, il y a un automne, un hiver, et puis ça repart. Numéro 12, votre relation n'est pas basée sur le romantisme ou sur l'alchimie. Vous êtes aussi amis. Vous vous appréciez, vous vous admirez, vous vous inspirez. Vous vous donnez mutuellement envie de donner le meilleur de vous-même dans cette relation. Être ami en plus d'être amoureux, c'est un des ingrédients essentiels pour une relation saine qui va pouvoir durer. Et enfin, numéro 13, quand vous êtes ensemble, vos blessures ne s'empirent pas, elles se guérissent. Vous n'êtes pas volontairement les thérapeutes de l'un et de l'autre, vous n'êtes pas dans cette posture-là. Par contre, l'attitude que vous avez l'un envers l'autre va avoir un effet thérapeutique, c'est différent.
Alors écoutez, c'était, je pense, extrêmement intéressant. Comme je
voilà
vous avais dit,
je vous
ai dit peut-être un petit peu trop tard, prenez des papiers, faites une liste, parce qu'effectivement, il y a des choses très intéressantes, et je crois qu'à la liste, les 13 points, donc les 13 points, là, vous n'avez pas pu vous arrêter sur chaque point et y réfléchir. Donc, effectivement, sachez que de toute manière, cette émission, elle est en podcast. Généralement, très rapidement derrière l'émission, c'est-à-dire que soit demain, soit début de semaine prochaine, vous la retrouvez, vous pouvez réécouter cet extrait qui est intéressant et qui, à mon avis, vraiment nécessairement demande à être réécouté plusieurs fois. Et alors là, l'enjeu de cet extrait, c'était pas de effectivement vous apporter une compréhension de comment vous fonctionnez, mais c'était effectivement peut-être une base, c'est-à-dire voilà, lister ces 13 points. Moi, je suis en accord avec les 13 points qu'elle a donnés, et de dire, faire un. Comment dire, un petit topo de là où vous en êtes, si vous êtes en relation amoureuse avec quelqu'un, est-ce que là, comment on en est tous les deux sur ce point-là, est-ce que c'est ok, etc. Et ça vous donne peut-être un point de départ d'un travail à effectuer sur vous-même ou sur le couple, ou demander à la personne qui vous accompagne si elle est d'accord pour elle-même évoluer sur le sujet. Voilà, mais je trouve que voilà, j'ai trouvé cette capsule et je la trouve fort intéressante et à mon avis, elle peut vraiment être un chaînon important quand on travaille sur soi et qu'on veut avoir une relation amoureuse saine. C'est vraiment une base intéressante à avoir. Voilà, cocher au fur et à mesure et voir ce qui fonctionne dans les petits points qu'elle a nommés et lesquels peut-être sont à évoluer, à travailler ensemble ou individuellement. Voilà. On se quitte pour une courte pause musicale et on se retrouve après avec une nouvelle capsule.
Je t'aurais dit toutes les choses que je ne t'avais jamais dites, que ta peau a l'odeur des roses, que j'adore le prénom Edith. Je t'aurais dit toutes les choses qu'on ne dit pas assez souvent, car souvent dans la vie on n'ose pas dire les choses tant qu'il est temps. Je t'aurais raconté la mère que si la vois une fois encore, on aurait viré l'infirmière, puis on aurait rigolé fort. Je t'aurais dit que ton visage me fait penser à l'océan, que tes rides ressemblent à des vagues où vont se baigner les enfants. J'avais su en partant ce soir-là, si j'avais su que le temps n'attend pas, si j'avais su, si j'avais su que c'était la première fois que je te voyais pour la dernière fois. Je t'aurais refait ton chignon et toi tu m'aurais dit ça tire. J'aurais fait un peu le con juste pour regarder ton sourire. Je t'aurais promis de faire une chanson qui raconterait comme t'étais belle, qui raconterait comme on est con, croire que les gens sont éternels. Et puis je t'aurais serré si fort qu'il y aurait des marques à ton cou. Je t'aurais regardé encore et puis je t'aurais regardé surtout. Je t'aurais enfermé dans mes yeux, j'aurais capturé ton parfum. Je t'aurais dit au revoir un peu mieux, puis j'aurais menti à demain. En partant ce soir-là, si j'avais su que le temps n'attend pas, si j'avais su, si j'avais su que c'était la première fois que je te voyais pour la dernière fois, je me serais dépêché de t'aimer comme l'on court après la vie, car on n'aime jamais assez. Je t'aurais dit je t'aime aussi. Les mots faut pas qu'on les conserve, faut les distribuer à la ronde. Sinon les mots, à quoi ils servent, à part à décorer les tombes.
Si j'avais su en partant ce soir-là, si j'avais su que le temps quelqu'un pour la dernière fois.
Voilà, extrêmement belle chanson, qui n'est pas une chanson d'amour amoureuse, mais qui est une chanson d'amour d'une personne. Je pense que là, il est peut-être en train de parler d'une personne de sa famille. C'est magnifique, c'est extrêmement beau, les paroles sont extrêmement bien trouvées. C'est vraiment, vraiment pas un chef-d'œuvre, mais on n'en est pas loin. Enfin, à mes yeux, bien sûr. Alors, on continue avec les fameuses capsules de cette émission. C'est une capsule qui va être en deux parties. C'est pas moi, c'est YouTube qui l'a proposé comme ça, et c'est très bien. Voilà, et alors, la personne s'appelle Thomas Dansembourg. C'est quelqu'un qui travaille sur la relation à l'autre depuis des décennies, qui est très connu dans le milieu de la relation à l'autre, dans le milieu thérapeutique. Il fait des formations, il a écrit des livres, vous le retrouvez sur des conférences. Enfin voilà, c'est voilà, quelqu'un qui est bien bien reconnu dans le milieu. Et là, il parle des mécanismes autobloquants dans la relation à soi et la relation à l'autre. Alors là, on est effectivement... tout à l'heure, on était sur des points. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'une relation est saine? Voilà, vous pouvez le vérifier si dans votre relation, vous êtes comme ça, si la relation se passe ainsi, si l'autre est comme ça, etc. Là, on va être vraiment, on descend un petit peu d'un grade, on va plutôt dans, effectivement, les mécanismes, dans, voilà, là, on va dans le dur. pour justement atteindre les fameux 13 points qu'on a vus en amont et qui vous permettent d'être vraiment dans une jolie relation. Donc là, on va aller à la rencontre de soi au travers du message de Thomas d'Ansembourg. Allez, je lance la première des deux capsules et on se retrouve après.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Nous poursuivons notre rencontre avec Thomas d'Ansembourg qui vient de publier aux éditions de l'Homme « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ?» Thomas d'Ansembourg, bonjour.
Bonjour.
On revient sur ce livre et dans ce chapitre, vous abordez cinq manières.
Mes mécanismes autobloquants, c'est vraiment comme des logiciels ou des programmations dans lesquelles nous avons grandi, dans lesquelles se vit notre société et qui ne sont donc pas remises en question tellement elles sont prises pour des sortes d'évidences ou des habitudes de fonctionnement. Et elles peuvent nous plomber vraiment dans notre évolution individuelle, mais également dans notre évolution collective. Et je les passe rapidement en revue peut-être. La première, c'est la culture du malheur. L'habitude de vivre dans une culture où on sait ressasser ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, se plaindre, se lamenter de toutes nos misères et on ne sait plus s'enchanter de ce qui va. Tellement le logiciel est programmé dans l'ombre et dans la souffrance. Et cette culture du malheur peut parfois friser le culte du malheur. On ressasse à plaisir, on en remet une couche. Et dans les enjeux humains, ben, c'est notre façon de s'envoyer des pics, d'être accro à l'affrontement, d'aimer presque engendrer la tragédie. Qu'est-ce qui fait qu'au repas qui est censé rassembler tout le monde et créer vraiment une unité, il y a presque toujours quelqu'un, quand ce n'est pas soi-même, qui apporte le petit sujet qui agace tout le monde ? Et que finalement on se chamaille, on se dispute et ça crée des tensions. Pourquoi cette espèce d'attachement à « oui mais c'est trop beau pour être vrai, on va plutôt rajouter un peu de réalité là-dedans et revenir à des choses qui vont agacer tout le monde ». C'est vraiment des programmations. Et elles sont très connues en psychologie et je suis moi-même conscient d'avoir été un maître en auto-sabotage. Je souhaitais, comme tout le monde, goûter le bien-être et la joie et la paix. Et cependant, la première personne qui la plupart du temps m'en empêchait, c'était moi. Et dans le travail de connaissance de soi, nous travaillons à rencontrer nos auto-saboteurs pour pouvoir s'en libérer petit à petit et pouvoir chérir des climats de bien-être durables et les encourager et non pas douter, là c'est trop beau pour être vrai, ça ne va pas durer, il vaut mieux que je saccage tout ça. Parce que ça peut faire rigoler, vu de loin, mais souvent nous saccageons le bien-être au lieu de le goûter. Nous avons besoin de sortir de la culture du malheur qui s'explique historiquement par les guerres, les tragédies, la mortalité infantile, le manque d'hygiène. On comprend que le disque dur individuel et collectif se soit un peu encodé dans ce petit vaccin, j'appelais ça le vaccin anti-bonheur. On n'est pas là pour rigoler. Si cette petite phrase circule en nous, on n'est pas là pour rigoler, eh bien, nous entrons dans des mécanismes de sabotage. Nous avons besoin de quitter cette culture du malheur pour apprendre, et ça s'apprend, à co-créer une culture de la paix, une culture de la paix intérieure, et donc avec de grands moments de joie partagée, de joie célébrée, de joie bien nommée, de joie échangée, en sorte que le balancier s'installe dans la paix. Bien sûr, il y a de la peine, il y a de la souffrance, il y a des conflits à vivre, il y a des deuils à faire, on est bien d'accord. Et il y a de grandes joies à vivre et on les vit pleinement pour pouvoir sentir que notre balancier est dans l'état de paix qui traverse les circonstances. J'ai à cœur que nous puissions quitter la culture du malheur et co-créer une culture de paix. Et ce n'est pas bisounours, hein, c'est du boulot que de désapprendre la culture du malheur et de s'éveiller à la culture de la joie.
D'autant plus difficile, si je vous entends, qu'effectivement, nous sommes encore bien dans cette culture-là et les médias nous le rappellent tous les jours,
absolument,
me semble-t-il, si je vous entends bien.
Oui, certainement. Et je trouve intéressant de se responsabiliser à propos de cela. Parce que souvent, on se plaint, de nouveau dans la culture du malheur, je me plains de ces médias qui ne racontent que des mauvaises nouvelles sans me responsabiliser. Mais est-ce qu'il y aurait cette offre s'il n'y avait pas de demande? Et la demande, c'est qui? Mais c'est chacun de nous. Et d'où vient-elle? Ben, je me permets de faire cette proposition en ayant accompagné tant de personnes. Quand ma vie est un peu ennuyeuse, que j'en ai pas trouvé le sens, je ne l'ai d'ailleurs pas cherché, je ne me suis pas interrogé dans la chaise du discernement pour vérifier vers où ai-je envie d'aller, quelles sont mes valeurs et comment est-ce que je les mets au monde petit à petit, rien de magique là-dedans. Je ne fais pas ce travail d'intériorité citoyenne. Alors je m'accroche aux choses pénibles et tristes et puis je rentre de mon travail accablé, n'ayant pas décidé de changer, de mettre en place un processus de changement. J'allume ma petite lucarne et tout à coup, toutes sortes de choses se passent, des tragédies, des guerres, des bombes, des glissements de terrain, des inondations. Et tout d'un coup, je me sens vivant parce que je ne suis pas mort. Et j'ai donc une définition complètement négative du principe vivant. Au lieu de l'avoir goûté toute la journée dans l'intensité avec laquelle je mets au monde le meilleur de moi pour enrichir le monde, au lieu d'avoir goûté joyeusement cette intensité, eh bien, je découvre que je suis vivant simplement par une définition négative. J'ai sais que ça peut troubler les personnes qui entendraient ça. Toutefois, je nous invite à la responsabilité. Nous sommes sur terre pour mettre au monde le meilleur de nous-mêmes. C'est la parabole des talents dans l'Évangile. Et il est temps de la vivre. Nous avons tous des talents. J'ai appris ça en m'occupant de gamins de la rue, comme vous le savez, pendant une dizaine d'années, des jeunes pris dans la drogue, dans la violence, dans les gangs de rue, la délinquance. Et j'ai pu percevoir que derrière cette misère, dans les comportements, les cœurs sont beaux et généreux. Et c'est ça que nous avons besoin d'apprendre, à trouver la beauté, la générosité de notre cœur et à la mettre au monde.
Puisque vous citez l'Évangile, je me permets de dire, ce que vous dites là, c'est en fait ce que lorsque le Christ vient dire « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et l'aient en abondance ».
En abondance.
C'est l'abondance de la vie dont vous parlez.
Ah, absolument, la vie est surabondante par l'intérieur. Je suis absolument émerveillé de voir ça. J'ai pu accompagner des personnes qui arrivent en dépression, début d'addiction, conflits intérieurs, deuil pénible à traverser, etc. et qui acceptent de s'ouvrir petit à petit, de comprendre leurs enfermements dans leurs habitudes de fonctionnement, dans leurs croyances négatives sur eux, sur la vie, sur les autres, qui acceptent de démanteler tout ça. Travail dit de développement personnel, mais qui est au fond du travail de développement social durable, parce que cette personne petit à petit éclot, se réveille et invariablement, je ne demande à personne de me croire, mais juste peut-être de l'entendre, invariablement cette personne ne se met au service. Sa vie intérieure est la clé de sa citoyenneté.
Ça demande donc toujours tout un travail de vérité intérieure.
Ah oui, absolument, absolument. Qui semble être vraiment rencontré dans la plupart des traditions. La plupart des traditions nous disent, au fond, en substance, la même chose. Ralentis d'abord, assieds-toi, fais silence et descends dans l'intime de toi. Laisse le seau du discernement, j'aime donner cette image, descendre tout doucement dans ce puits intérieur pour ramener à toi la substance de la vie, la connaissance infinie, l'amour infini, la transcendance, le sacré, quels que soient les mots qu'on mettra là-dessus. On peut appeler ça présence à Dieu, présence de Jésus, on peut l'appeler le souffle, qui est une expression que personnellement je chéris parce qu'elle semble rassembler et ne pas faire de résistance, alors que si on parle de Dieu, la plupart du temps on parle à 8 ou 10% de la population qui pense Dieu en nommant Dieu comme ça. Donc, et j'essaye d'élargir pour que chacun puisse se sentir touché. Et c'est intéressant de voir comme la plupart des traditions nous parlent de cette abondance, cette même surabondance qui est à l'intérieur de nous-mêmes. J'aime cette autre formule du Christ qui dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par surcroît ». Je pense que c'est un des seuls textes où le mot « surcroît » existe. Je ne l'ai pas vraiment rencontré. Parfois, oui, un surcroît d'énergie. Mais c'est beau, un surcroît, c'est-à-dire bien plus que nécessaire. J'adore ça. Et il est où le rayon des cieux ? Ben, à l'intérieur de chacun de nous, comme le dit une des traductions de l'Évangile.
Et donc, c'est le premier.
Le premier piège.
Premier, voilà. Peut-être un deuxième.
Oui, le deuxième, rapidement. Donc, ces mécanismes autobloquants qui peuvent nous coincer dans notre évolution individuelle et collective. Le deuxième piège, c'est l'habitude de vivre les rapports humains comme des rapports de force dès qu'il y a un différent. Quand tout va bien, tout va bien. Mais si nous sommes en différent et qu'on n'est pas d'accord, enfin, sûrement pas vous parce que vous êtes habitué à l'empathie, à la présence, mais d'autres, et j'invite les personnes qui vont nous écouter à vérifier, tiens, je ne suis pas d'accord avec mon conjoint, avec mon ado adorable, avec mon enfant, avec ma vieille maman, avec un collègue de travail. Qu'est-ce qui circule en moi quand le désaccord apparaît ? Est-ce que c'est douce tendresse pour cet humain, amour inconditionnel de cet être que je chéris ? Est-ce accueil d'ouverture complet pour cette altérité, cette différence qui se manifeste là ? Est-ce que c'est ça qui circule en moi ? Et la plupart du temps, quand je dis ça en conférence, les gens rigolent un peu parce que c'est pas ça qui circule en nous. Ce qui circule en nous quand le différent apparaît, c'est petite agitation cardiaque, petite sécrétion d'adrénaline, petite tentative de trouver le gourdin de Cro-Magnon pour avoir raison avec quelques arguments et convaincre l'autre qu'il a tort avec d'autres arguments. C'est une attitude combative. Pourquoi ça ? Si ce n'est un vieux logiciel, ce n'est pas la seule façon de résoudre les différends, de traverser les différends et a fortiori de résoudre les conflits. Qu'est-ce qui fait que ne s'enclenche pas en nous l'empathie ? Tiens, on n'est pas d'accord, mais comme c'est intéressant, viens t'asseoir là. Et réfléchissons ensemble. Parle-moi d'abord de ta position. Je souhaite respect pour ma posture. Ben, le minimum, c'est que j'en ai pour toi. Donc, je t'écoute. Et suprême luxe, je te laisse un temps de silence après que tu aies fini. Parce que le silence après que tu aies parlé, c'est encore toi. Et je savoure ça, pour paraphraser la jolie formule avec Mozart. Et puis je reformule pour m'assurer que je t'ai bien compris avant d'argumenter. J'essaie de voir c'est bien ça que tu penses, même si je ne suis pas d'accord. Écouter quelqu'un, ce n'est pas forcément être d'accord, c'est considérer que cet humain a le droit de penser ce qu'il pense. Comme moi j'ai le droit de penser ce que je pense. Je crée là où je suis les conditions de respect mutuel que je souhaite voir partout dans le monde. Mais c'est de l'hygiène, ça. Hein ? Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Et quand j'entends les gens dire « oui, c'est gentil, la communication non-violente, mais ça ne marche pas », ben attends, si on sait faire la guerre, on sait faire la paix. On sait faire la guerre parce qu'on s'y discipline. Eh bien là, on se discipline à écouter l'autre jusqu'au bout, à vérifier qu'on a bien compris, à demander s'il est d'accord que je partage ma position. C'est du respect, c'est de l'attention, c'est de la courtoisie. Et effectivement, on peut arriver à partager des positions qui ne sont pas forcément combinables, mais je vais pouvoir dire, écoute, j'ai écouté ta position, je te remercie de me la partager, tu as écouté la mienne et je t'en suis reconnaissant. On n'est pas d'accord, c'est pas grave, laissons les choses maturer, mûrir, laissons le souffle nous enrichir. Et ce que j'observe dans mon travail, c'est qu'il y a infiniment plus d'intelligence dans deux cœurs qui essayent de se comprendre, parce qu'on n'y arrive pas toujours, mais au moins on essaye, bien plus d'intelligence dans deux cœurs qui essayent de se comprendre que dans deux intelligences, cerveau gauche, qui essayent d'avoir raison à coup de massue, à coup d'argument. Nous avons vraiment besoin de quitter la culture des rapports de force, domination, soumission, agression, démission, fuite ou bouderie. La bouderie est vraiment une prise de pouvoir. Nous avons besoin de quitter ces prises de pouvoir et entrer dans des rapports de collaboration, empathie, entraide, intérêt profond pour la différence. Parce que devant les enjeux du monde, si nous ne nous éveillons pas à ça, eh bien, je crains qu'on souffre beaucoup.
Thomas Dansbourg, merci beaucoup. On analysera les trois autres mécanismes dans une prochaine émission. Nous arrivons déjà au terme de celle-ci. Merci de votre fidélité.
Donc ça, c'était la première partie. Je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale. Et puis derrière, je lance la deuxième partie avec les autres points autobloquants. À tout à l'heure.
Métamorphose qui m'éloigne de mon passé. J'ai croisé une rose qui ne pouvait pas avancer. Pas qu'elle n'ose pas la chose, mais n'y avait jamais pensé. Depuis toujours, tenant la pose quand les regards l'éclaboussaient. Elle a la couleur de l'amour, bien que je ne l'ai jamais croisée. Bien qu'à la lumière du jour, les fleurs sont toutes belles à crever. Alors j'ai mis la route en pause, à ses côtés me suis posé. Puisque cette rose semblait mon rose d'être seul au jour achevé. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Suivant la course du soleil avec nos yeux fatigués, on s'est raconté nos merveilles et nos tristesses irriguées. On n'avait pas grand chose à faire alors on s'est allongé. Avec ma rose j'ai fait la guerre à mon envie de voyager. Mais au matin la route appelle alors je lui ai proposé. Si elle osait me faire l'honneur d'avancer à mes côtés. Même si ton armure est trop lourde, bien qu'elle t'ait toujours protégée. Sache que la vie est sourde quand elle ne doit pas nous blesser. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Traversant tous les bruits du monde avec ma fleur à mes côtés. Me nourrissant à chaque seconde de sa douceur et sa beauté. J'ai croisé un ruisseau immonde qui a cru bon de refléter l'image d'un monstre aux plaies profondes, un guerrier triste et abîmé. Comment ma rose peux-tu subir pareille offense à ta splendeur? Et comment puis-je réussir à oublier quelle fut l'erreur de t'arracher à ton jardin à cause d'un vide dans mon cœur? Mais elle m'arrête et puis m'embrasse. Ma rose rit et moi je pleure. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, maintenant je suis sûr que je ne serai plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, que ça peut être dur. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, depuis que ma vie dure. Je n'avais jamais eu personne pour guérir mes blessures. Jusqu'à ce qu'un jour une rose vienne se poser. posée sur mon armure.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec Thomas Dansbourg qui a publié aux éditions de l'Homme ce livre « Notre façon d'être adulte, fait-elle sens et envie pour les jeunes ?» Thomas Dansbourg, bonjour.
Bonjour.
Nous poursuivons notre rencontre et vous aviez dit qu'il y avait 5 mécanismes autobloquants. Nous en avons déjà vu 2. Je vous propose de continuer parce que vous avez donné le goût de les découvrir tous, en fait.
J'espère, merci. Le troisième mécanisme autobloquant que nous rencontrons beaucoup, c'est l'habitude de vivre plutôt dans la méfiance par rapport à la nouveauté, au changement, à ce qui arrive et qui n'était pas prévu. Donc l'incertitude, il y a davantage de méfiance avec contraction-fermeture que de confiance avec un phénomène d'expansion-ouverture. Ceux qui ont une pratique du corps comme de la méditation ou du tai chi ou du reiki, du yoga, sentent bien et savent que le corps a deux mouvements de base, c'est expansion-ouverture ou contraction-fermeture. C'est précieux d'écouter son corps parce que ça peut nous permettre d'avoir déjà certaines réponses dans la vie. Eh bien, je constate que nous avons souvent été éduqués plutôt dans la méfiance et dans la contraction que dans l'ouverture. Et aujourd'hui, devant cette transition dans laquelle nous sommes engagés, je crois que nous avons profondément besoin de nous ouvrir à l'accueil du changement, à l'accueil de l'incertitude. L'épidémie est venue nous bousculer complètement dans nos habitudes de tout programmer, d'avoir un agenda bien rempli avec des choses sûres qui vont se passer l'une après l'autre. Et paf, tout ça est chamboulé parce que l'épidémie arrive et compromet complètement les agendas et les projets. Eh bien, j'ai pu voir que pour beaucoup de personnes, c'est une source de grosse angoisse et que nous avons comme évacué l'incertitude et notamment l'incertitude finale qui est la fin de vie et la mort. Nous avons évacué ça dans notre culture qui ne parle pratiquement pas de la mort. Et alors, nous avons absolument besoin de nous rappeler que c'est un facteur d'incertitude, la mort. Nous ne savons pas quand nous mourrons et comment nous mourrons. Et nous avons besoin de côtoyer cela pour donner du poids à la vie. C'est précieux d'être vivant. Ma vie est précieuse, votre vie est précieuse, la vie de mon enfant est précieuse, la vie de mon collègue de travail est précieuse, la vie de ma communauté dans laquelle je suis est précieuse. Si nous oublions la mort, je pense que nous négligeons la vie et nous avons donc besoin de réintégrer cette confiance dans la vie, cette ouverture et cette capacité à côtoyer l'incertitude et notamment celle de la fin dernière. Ça, c'est la troisième programmation autobloquante, s'ouvrir à la confiance, à l'ouverture.
Je voudrais, quand vous parlez de l'incertitude, c'est quelque part finalement prendre conscience, c'est de croire que la vie est un dû alors qu'elle est plutôt un don.
Ah, c'est tout à fait ça. Absolument. Beaucoup de gens considèrent comme acquis d'avoir de la sécurité, d'avoir de la stabilité, d'avoir une ressource, d'avoir la santé, absolument, comme si ça tombait du ciel, et sans avoir conscience que tout ça, ça n'a pas toujours été le cas. C'est pas toujours le cas pour bien de nos contemporains qui n'ont pas la sécurité, qui n'ont pas la santé, qui vivent dans la précarité. Nous avons besoin de nous réancrer dans cette essence de la vie. Pour effectivement ne pas prendre les choses comme acquis et vivre comme un enfant gâté, au fond, si je peux employer ce gros jugement, mais qui nous permet de nous faire comprendre, je crois.
Donc ça, c'est le troisième mécanisme autobloquant. Il y en a encore 2 autres.
Oui, le quatrième, c'est l'habitude de la division, séparation entre les choses plutôt que d'une pensée qui rassemble, qui est global. Je vois ces divisions d'abord dans la séparation d'avec la nature. L'homme se sent séparé de la nature et donc considère qu'il a du pouvoir, qu'il en est le maître et qu'il peut donc en abuser par des mécanismes que l'on voit tellement bien aujourd'hui, dont nous voyons les effets pervers, mécanismes d'extraction abusive qui fait que nous sommes dans un processus de destruction de la planète. Cette division, certains historiens la placent au moment où nous avons quitté l'époque des chasseurs-cueilleurs, où nous étions en symbiose avec la nature, avec les saisons, faisant partie d'eux, et que nous sommes devenus cultivateurs avec le besoin de clôturer notre territoire et de nous sentir maîtres de ce territoire. Ça peut être une explication. Une autre, ça peut être l'émigration massive des campagnes vers les villes et les industries au début de l'ère industrielle. Donc le fait de quitter les cycles et les saisons et les rythmes de la nature, en tout cas, quelle qu'en soit l'origine, je sens profondément qu'aujourd'hui, nous avons besoin de sentir que nous ne sommes pas dans la nature, nous ne sommes pas devant la nature, nous sommes de la nature. Nous sommes physiquement, biologiquement, une émanation du processus vivant auquel s'ajoute la conscience et le discernement. Mais ça ne nous donne pas du pouvoir sur, ça nous donne du pouvoir avec. comme un chef d'orchestre peut orchestrer pour que tout se mette bien ensemble et de façon harmonieuse. Et il est temps donc de sentir cette appartenance profonde en refréquentant plus régulièrement ce dont nous émanons, en tout cas sur le plan terrestre.
C'est de redécouvrir cette mission, si nous croyons, de nous dire que nous sommes co-créationnels et non pas décréationnel.
Ah, absolument, et que nous pouvons nous réenchanter de cette appartenance au monde. L'encyclique Laudato Si du pape nous parle complètement de cette reconnexion, d'honorer le vivant en toute chose, et de nous en sortir par et pas sépare. Et ça, c'était un premier piège de la séparation. Le deuxième, c'est la pensée binaire. Nous pensons souvent en soit ceci, soit cela. Où c'est extrêmement divisant. J'accompagne les personnes depuis 25 ans dans la communication non violente, qui est un travail de réconciliation de ce qui paraît opposé et de pollinisation des polarités. Et je vois que tant que la pensée binaire est là, nous sommes divisés, nous sommes déchirés, nous sommes émiettés. Nous avons besoin d'apprendre à nous recueillir, vraiment au sens de cueillir les différentes parties de nous pour retrouver notre unité. Ça demande un travail de conscience, d'hygiène de conscience, et donc de quitter l'habitude de penser en tiroir qui s'oppose, comme ça, qui est un des fruits de la pensée cartésienne, qui malheureusement nous divise beaucoup. Et enfin, une autre séparation que je vois extrêmement régulière, c'est cette culture qui nous a forgé sur un « je, me, moi », souvent égoïste, parfois même avide, accaparant, face à un « tu, te, toi » vécu comme hostile, peut-être même menaçant. Et nous avons oublié le « nous ». Nous avons oublié le « nous tous », pas juste le « nous autres », partisans de telle partie ou de telle religion, face à vous autres qui êtes dans telle autre partie ou telle autre religion, qui recrée de la division, de la séparation, de l'émiettement, mais le « nous tous », nous tous les passagers du vaisseau terrestre, de cette grande famille qui navigue sur ce vaisseau et qui est unie dans un même sort. Nous avons vraiment besoin de retrouver cette conscience du collectif, de la communauté. Et ça ne tombe pas du ciel de nouveau. Ça s'apprend, ça se travaille, ça nous demande de nous défaire de notre ego. Et pour pouvoir défaire de notre ego, nous devons apprendre à le comprendre pour ne pas nous y opposer, mais le laisser tranquillement se dissoudre, d'où l'enjeu du travail d'intériorité citoyenne dont nous avons déjà parlé.
Ce qui signifie aussi, quelque part, que c'est aller contre la culture ambiante dans laquelle nous sommes, qui prône l'individualisme à outrance.
Absolument, en tout cas d'aller au-delà de cette culture. Sans doute avons-nous besoin, puisque les cultures étaient autrefois, il n'y a pas si longtemps, assez tribales, c'est la grande famille, c'est la caste, c'est la classe qui commande avec ses principes, ses habitudes. L'individu a sans doute dû émerger de ça pour penser par lui-même, mais le balancier a besoin de retrouver son axe, à la fois appartenance, bien sûr, et lien très important, à la fois autonomie et liberté, et en même temps équilibre entre les deux, pour quitter cet individualisme excessif qui nous fait tant de mal à nous, mais aussi à la planète, bien sûr.
Cinq mécanismes autobloquants, ça veut dire que ça demande tout un travail d'intériorisation, tout un travail de vérité, qui ne peut pas se faire seul, je suppose.
C'est difficile de le voir seul. Souvent, c'est par les échanges que tout d'un coup, on le perçoit. Et personnellement, j'ai eu un grand bénéfice de travailler là-dessus de façon indirecte. Je ne les nommais pas comme ça en thérapie, bien sûr. Mais ensuite, en participant à beaucoup de groupes, j'ai beaucoup travaillé avec le psychanalyste québécois Guy Corneau. Et puis, je suis devenu son assistant, son collaborateur. Ça m'est apparu que ces pièges étaient fréquents. Et puis, maintenant, j'anime des sessions de communication non-violente qui s'apprennent en groupe. C'est vraiment quelque chose qui apparaît de plus en plus. Et quand on connaît ces pièges, et je commence toujours mes sessions en les nommant, les gens les retrouvent en disant « Ah oui, là, je suis pris dans la culture du malheur. Ah, là, je suis dans une pensée divisée et binaire. Ou là, je suis dans la méfiance plutôt que d'être dans la confiance. » C'est vraiment intéressant de les voir. Et puis, il y a un cinquième piège qui est le rapport hostile au temps. Nous avons construit une société qui se bat contre le temps. C'est fichu d'avance, si je puis me permettre. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a amené un jour en thérapie. J'étais juriste, je m'occupais de jeunes de la rue, j'étais engagé dans toutes sortes de projets sociaux. Je courais tout le temps. Et à un moment, une petite voix s'est fait de plus en plus claire en moi et j'ai accepté de l'écouter. « Ta course est perdue, est perdue. » Et je me suis dit, je me bats contre quelque chose sur lequel je n'ai aucun pouvoir. Qu'est-ce qui fait que je me bats contre le temps au lieu que de marcher avec comme un compagnon qui m'amène tranquillement vers mon objectif, comme le temps aide le jardinier à obtenir de bons fruits ou de belles fleurs, comme le temps aide le vendangeur à faire un bon vin. Nous avons besoin de retrouver un compagnonnage avec le temps, parce que cette course contre le temps nous épuise individuellement. 30% de la population en Belgique et en France sous médicaments pour survivre, parce que la course est dingue, anxiolytiques et autres amphétamines. C'est pas le sens de la vie de bouffer des médicaments quand même. Et cette course nous épuise individuellement et elle épuise la planète parce qu'on surexploite ses ressources. Donc nous avons besoin de pacifier ce rapport au temps et pour ce faire, de faire le lien avec notre course à tout bien faire. C'est parce que nous courons à tout bien faire, de choses à faire, en oubliant d'être, que nous nous battons contre le temps. Si nous avions appris dès l'enfance à être profondément présent, vivant, attentif, contemplant, nous ferions les choses qui permettent la vie sur la planète, bien sûr, et la collaboration nécessaire à la joie du vivre ensemble, mais nous les ferions dans un rythme doux, tranquille. Moi, il m'a fallu entre 7 et 8 ans pour retrouver un rythme doux et simplement retrouver mon rythme. J'avais encodé, en voyant mes parents courir, qui disaient « on n'a pas le temps, dépêche-toi ». J'avais encodé « on se bat contre le temps, c'est comme ça, la vie, c'est comme ça ». Il m'a fallu des années pour dire « attends, ça c'est ce que j'ai encodé, c'est un enfermement, ça m'enferme, ça m'emprisonne. J'ai besoin de faire droit à mon rythme. Moi, j'ai un rythme lent, j'aime faire beaucoup de choses, mais tranquillement, paisiblement. Et je pense que globalement, notre société a besoin de retrouver un rapport pacifié avec le temps, parce que c'est ça qui permet de goûter la vie. Si j'ajoute de plus en plus de choses à faire dans la vie, inévitablement, il y a de moins en moins de vie dans les choses à faire. Tout est compacté. Et dans tant de familles, il y a de la détresse parce qu'on ne se parle plus, on ne s'écoute pas, on se sort des conseils ou des solutions sans prendre le temps de s'écouter, de bien se comprendre. Et il y a pas ou peu de nous joyeux, de nous féconds. Nous avons besoin de prendre le temps de créer, recréer du nous fécond.
Voilà. Thomas Lansbourg, merci beaucoup.
Voilà. Nous arrivons déjà les deux capsules qui se suivent sur ce sujet, effectivement, de mécanismes bloquants, autobloquants, que ce soit culturel ou, mais qui, une fois qu'il est, on a dit que c'était dans la culture, voir de quelle manière, de toute manière, on les a introjectés, c'est-à-dire qu'on les a fait nôtres, on les a pris pour quelque chose de, voilà, un comportement naturel, on s'y est habitué. Et voilà, il y a des choses à revoir. Donc, toujours pareil, vous pourrez écouter de toute manière hein, cette émission. C'est l'émission 16, vous la retrouverez en podcast si vous avez envie de réécouter cette intervention. Alors, je vous propose une petite pause musicale et après, on s'écoutera, puisqu'à la base, c'est une émission quand même qui est intéressante en termes aussi de témoignages. J'ai trouvé un témoignage sur le couple mixte. Voilà, pour terminer l'émission. Donc là, petite pause musicale et puis après, on part sur le témoignage.
Laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. s'étendre. Laissez-le-moi un peu, même si j'ai tort. Laissez-le-moi encore.
Voilà. Mon Dieu, Édith Piaf. Donc là, on écoute effectivement maintenant un témoignage. Voilà, prenez du plaisir. Il n'y a a priori pas grand-chose à noter. Laissez-vous porter. Et puis voilà, puis après on se retrouve pour un petit coucou pour la fin de l'émission. À tout à l'heure.
C'est-à-dire, vous formez en effet un couple mixte. Ouais. Qui l'a pas bien vécu dans vos deux familles?
C'est plus sa famille à elle.
D'accord. Enfin,
en fait, ça allait très vite dans notre histoire. Parce que Lydia, quand on s'est rencontrés, elle est restée 3 mois en France. Donc avant qu'elle rentre en Angleterre, en fait, on s'est dit, on veut savoir. En fait, c'était bizarre. Moi, j'étais prêt à me marier. J'étais prêt à rencontrer ma femme. On ne savait pas le timing et tout. Mais on s'est dit, la prochaine personne qu'on rencontre tous les deux, ça va être le partenaire de vie. Et en fait, quand on s'est rencontrés, on voulait savoir avant qu'elle rentre, si vraiment c'était du solide avant qu'elle parte. Et tous les deux, on s'est rendu compte que, en fait, si.
Sérieux ?
Et du coup, maintenant qu'elle rentre en Angleterre, j'avais prévu de partir voir sa famille pour expliquer notre projet. Du coup, moi, je partais à New York. Et du coup, je me suis dit, pour qu'on puisse vivre ensemble, il faut qu'on soit mariés. Et du coup, je suis allé voir cette personne et cette famille. Et j'ai présenté le projet. Et la réaction n'était pas ce que je m'attendais.
Dû à votre couleur de peau et de votre culture?
Je pense que c'est dû à toutes nos différences. Parce que je voyais comment d'autres personnes, d'autres conjoints de la famille étaient traités, qui étaient anglais. Enfin, automatiquement, je suis pas quelqu'un, je joue pas au Calimero à me dire c'est parce que je suis noir ou quoi que ça. Enfin, je pense que c'est le fait de toutes nos différences. Peut-être que j'allais la prendre sa fille, partir loin.
On vous l'a pas formulé?
On me l'a pas formulé.
Mais vous avez senti que c'était, vous étiez pas accueilli les bras ouverts.
Quand je suis arrivé pour la première fois en tant que copain, très bien.
Mais dès qu'il s'agissait que ça soit sérieux. Ouais.
Mais dès qu'on a parlé de fiançailles, c'est là que ça a switché en fait.
Ça a changé.
Et petit à petit, ils ont essayé de nous empêcher parce qu'en fait, j'avais présenté mon projet de le faire en Floride. Et en fait, au moment de la demander en mariage, j'avais prévu qu'elle vienne à Paris en voyage en Floride. Et il y a eu un ouragan. Et du coup, notre vol est annulé, mais il était reprogrammé. Mais ils ont essayé de dire, c'est dangereux, il ne faudrait pas y aller. Mais en fait, de jouer avec les émotions pour l'empêcher d'y aller parce qu'ils savaient ce que j'allais faire là-bas.
Ah. Et c'est là que, comme j'ai expliqué, je crois que cette personne a vraiment joué avec ce que j'ai exprimé, que moi, je savais que c'est mon mari. Mais ils ont vraiment joué qui disent, il n'y a pas... il n'y a pas de rush, on peut attendre. Tu sais, Lydia, tu peux toujours attendre. T'es pas sûre. Mais moi, je dis, oui, je suis sûre, mais c'est juste, c'était pas quelqu'un qui voulait m'encourager ou.
Oui, je mets le doute en vous.
Oui.
Vous vous êtes quand même mariée, vous avez été au bout de ce projet, comme vous dites. Est-ce que les choses se sont encore plus compliquées après?
Oui, avec chaque étape, ça s'empirait.
Et, avec votre famille, toujours. Hein?
C'est toujours ma famille.
C'est tous les choix qu'on faisait déjà, parce que même déjà se marier à Paris. C'était un problème.
Ouais.
Parce que moi, j'étais à New York, j'étais en Angleterre. Le fait d'avoir choisi la France pour le mariage, c'était un problème. Tous les choix qu'on décidait pour l'organisation du mariage, c'était un problème.
Ils disaient pas que ça les dérangeait.
C'est ça.
Mais au fur et à mesure que vous avanciez, tout le monde essayait de dire non, pas ça. Et vous sentiez qu'il y avait un veto.
Exactement.
En fait,
hein. Pour moi, c'était toujours, on peut dire peut-être une manipulation émotionnelle. Donc, c'était toujours...
pas direct, quoi.
Oui,
pas franc.
Voilà. Jamais direct. Mais vu que je suis quelqu'un peut-être très émotionnel, chaque fois que ça jouait à l'intérieur de moi et ça mettait entre nous des
tensions,
des problèmes, des disputes.
Et ils sont venus à votre mariage?
Oui, ils sont venus en fait le jour de mariage. Ça s'est très bien passé, mais peut-être il y a toujours des critiques. Mais là, en tant que des Anglais, on va dire qu'on n'est pas toujours très honnête, très direct. C'est toujours les remarques,
les insinuations
derrière les dos. Donc là, on a su plein de choses, c'était après le mariage.
En fait, on a su des trucs derrière. Parce que devant vous, les Anglais, ils sont un peu très royal. Ils vont garder la face, on garde l'image. Mm. C'est-à-dire qu'on ne va rien vous dire devant, mais c'est derrière que ça va mal parler. Parce qu'en fait, le mariage, c'est un mélange de cultures. On a mélangé
On voit
cultures,
sur les photos, bien sûr, la culture africaine.
Du coup, s'il y avait un peu de retard, oh là là. Enfin, il y avait beaucoup de... On entendait des remarques, mais nous, ce n'était pas à nous direct. Donc nous, notre mariage, on l'a très bien vécu. On ne savait pas tout ce qui se passait.
C'était pas feel good, quoi, derrière, en fait.
L'envers
du décor n'était pas feel good.
Mais de cette personne,
je parle français.
Mais de cette personne, pardon, ce jour-là, cette personne ne m'a jamais félicité. Vous savez, quand il y a le bâton, on veut dire vraiment, je passe le relais, entre guillemets, il n'y avait jamais de félicitations. C'était un peu comme un deuil. C'était pas une journée.
Oui, joyeuse. Ouais. On parlait de la même chose. C'était
c'est vraiment.
Enterrement,
c'est, hein. On a beaucoup de similarités.
Et vous avez eu un enfant rapidement aussi, comme Nicolas c'est ça. Et Johanna.
C'est ça. Et là, je crois que aussi, je crois que cette personne a vraiment compris que dès qu'on avait un enfant, c'était concret. C'était là, on
a pu
plus se séparer. Ouais. Parce que là, même avant notre mariage. Cette personne a vraiment forcé de vraiment prendre une moyen de contraception contre vraiment mon gré, contre ce que je voulais. Et là, oui, ouais. Et là, je me suis pas accordée avec Kevin. Et vu que j'ai fait tout ça assez vite parce que c'était vraiment une pression que si je mets pas, cette personne va pas parler avec moi, va pas, je sais pas. C'était vraiment, je me suis sentie
oppressée.
Oui, pressée par cette personne. Du coup, j'ai fait cette chose. Et après, là, vu que ça se passait très mal pour moi, après, même dans notre mariage, je me suis même sentie, on s'est mariés, et là, je sentais que, il fallait même dire à cette personne que j'ai enlevé ce truc, et il fallait que...
Le stérilet, vous aviez enlevé, oui.
Oui, il y avait beaucoup de choses que...
Demander la permission.
Oui. Et là, j'ai
de l'emprise un peu. Il y a de l'emprise.
Il y avait vraiment ça.
Oui, et il y a un moment, il faut grandir. Enfin, c'est pas du tout un jugement, mais il faut grandir. Enfin,
c'est vraiment
même si c'est difficile, parce que là, on sent qu'il s'immisce dans quelque chose qui est complètement privé. Enfin, et lors de votre espace intime, quand même,
hein,
sur la sexualité, il faut bien le dire. Et il y a un moment, c'est ça qui est très compliqué, c'est qu'il faut pouvoir dire stop à cette instance
et
parentale et grandir.
Parce que ça a eu un impact sur votre couple, toutes ces frictions?
Oui, bien sûr.
Parce que nous, on est complètement opposés. Moi, j'ai une culture, on est très franc. On dit les choses telles qu'elles sont.
Cash.
Et moi, au début, je me disais, peut-être la personne a du mal. Ça vient avec le temps, ça va s'adoucir.
Bah, comme oui, on donne toujours la grâce.
On donne toujours une excuse. parce que voilà, on est chrétiens aussi. Donc, on se dit, peut-être qu'avec le temps, on va prier, ça va aller. Mais pas du tout. Mais en fait, ça s'empirait. Et quand on vivait à New York, de première année de mariage, et cette personne est venue, et là, c'était horrible.
C'est-à-dire?
Cette personne restait avec nous. C'était des remarques sans cesse pour me faire sentir comme si j'étais pas assez bon pour Lydia.
Donc pas raciste, mais on sait pas en fait. Mais c'était désagréable.
Voilà, c'était vraiment plus sur mon caractère qui je suis.
Oui, ouais. Caractère.
En fait, c'est raciste dans le sens où c'est toujours nous, chez nous, on fait comme ça.
Oui, c'est ça.
En gros,
donc,
toi, tu dois faire comme ça.
Ouais.
C'est me faire devenir anglais.
Sinon, tu veux pas.
Et moi, je disais, je suis pas anglais. Je suis français d'origine camerounaise. Je suis qui je suis. Vous n'allez pas me changer, je peux comprendre votre culture, mais c'était toujours, on ne veut pas savoir comment on fait chez toi, mais chez nous, c'est comme
chez
ça.
Chez nous,
qu'on
c'est comme ça. Donc il y avait une espèce de lutte.
Donc, en fait,
de pouvoir.
Mais c'est subtil, en fait. C'était pas...
Est-ce que vous avez envisagé de couper les ponts pour survivre un peu?
Parce qu'en fait, il y avait déjà la distance à l'époque, parce qu'on était à New York, c'était en Angleterre.
Ouais.
En fait, c'est vraiment qu'on est revenu en Europe et qu'on est resté un peu de temps chez
ces membres. Et qu'on a annoncé qu'on était enceinte.
Ouais.
C'est vraiment la réaction à ce moment-là. Qu'on a vu que...
On a dit, il faut qu'on rentre en France.
En fait, la réponse était même que, voilà, Kevin.
T'es content, t'as eu ce que tu voulais.
Tu as gagné.
Ah
il n'y a pas eu de félicitations, c'était, t'as eu ce que tu voulais, t'es content.
Horrible.
Genre,
et surtout, alors qu'on doit être en joie,
oui,
l'annonce
ça.
Est censée être un moment
en
quand
fait,
même
c'était
hyper
vraiment
important.
Comme si j'étais mineur, j'étais...
On avait péché.
Oui, c'est mon mari.
Vous étiez mariée,
c'est ce qu'on veut. Et là...
T'es heureux.
Et là,
c'était... Si elle était heureuse, si elle était contente.
Et là, ça ne se passait pas du tout comme je pensais dans ma tête, la grossesse et tout ça, parce que c'était quand même allé être... je ne savais pas... En fait, ça ne s'est pas passé comme je voulais pendant la grossesse. Et à un moment donné, c'est vraiment là que... je crois que c'est comme vous avez expliqué, il faut couper pour qu'on puisse grandir et grandir notre famille ensemble. Et là,
vous avez coupé les ponts. Elle a quel âge, votre fille, aujourd'hui?
La première, elle a bientôt 3 ans.
Ah, vous en avez d'autres?
On a deux. Et la deuxième, elle a 6 mois.
6 mois, oh, félicitations.
Merci.
Est-ce qu'aujourd'hui, les liens se sont renoués?
Absolument pas.
Complètement coupé, là, depuis juste avant que j'ai accouché mon aîné. Donc, presque 3 ans.
C'est-à-dire, vous formez, en effet, un couple mixte.
Voilà pour le témoignage du jour. L'amour triomphe et le couple grandit ensemble et fait face aux épreuves ensemble. Magnifique. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, on va terminer là-dessus. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Et puis, on se rejoint la semaine prochaine pour des nouvelles aventures relationnelles. Et voilà, prenez bien soin de vous.
Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier.
work, less paydays, all the Mars day days, charge a L at VAT, city on West, that's CAP, rest in peace, CAD, you know that's cause my ski, body and face, I'm spoiled.